Bonjour d'abord. C'est justement en réfléchissant sur cette façon de lire la Bible, E100 dont vient nous parler Pierre-Yves, que je me suis rendu compte que le premier texte qu'on nous demande de lire, c'est le texte de la Genèse 1, verset 1 et suivant, donc le tout début de la Bible. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de vous en parler aujourd'hui. Alors, nous allons lire ce texte. Si vous avez une Bible comme cela, c'est tout au début. Si vous avez une Bible autrement, c'est pareil. Vas-y. Donc, je vous propose de lire ce texte, un des plus connus de la Bible, un texte qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive, et en tirer quand même quelques enseignements utiles. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour et la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que des luminaires dans l'étendue, dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons de tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Et il les bénit en disant, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez les mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. On avance. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Chapitre 2. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Je suis désolé, j'ai lu un peu vite, mais c'est un peu long. Je vous propose, d'après cette lecture, de voir comment le texte est structuré, parce que cette structure de texte a des choses à nous apprendre. La première chose qu'on voit, c'est qu'il y a une introduction. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cette petite phrase n'a l'air de rien. Pourtant, elle déclare depuis des millénaires que le monde a eu un commencement. Alors, à notre époque, où nous avons la connaissance de la théorie du Big Bang et tout ça, c'est accepté, cela paraît évident. Mais pendant des siècles, des gens se sont moqués de la Bible parce qu'ils pensaient que la matière était éternelle, qu'elle avait toujours existé et que donc il était insensé de parler de commencement. Et pourtant, c'était écrit depuis longtemps dans nos Bibles que la matière, le monde, l'énergie, tout cela avait eu un début, un moment fixé par Dieu. Ensuite, nous remarquons ce texte qui est divisé en sept jours. Chacun se termine par la mention « soir et matin », ce fut le premier jour, le deuxième jour. Et on retrouve donc la conception hébraïque des jours. Hein, vous savez que pour les Juifs, le jour commence au coucher du soleil. Hein, donc il y a d'abord le soir et ensuite le matin. Et on retrouve aussi la journée, la semaine telle que les Juifs la conçoivent et la concevaient à l'époque de Moïse qui a écrit ce texte, avec les six jours où on travaille et le septième jour où on s'arrête pour être en communion avec Dieu. Donc tout fut créé par Dieu pendant ces six jours-là. À notre époque, beaucoup de gens pensent qu'il est ridicule de dire que tout a été créé en six jours, à peu près il y a 6000 ans. C'est ce que donnent les calculs. Si on reprend les généalogies de la Bible, on s'aperçoit qu'en gros, avant Jésus-Christ, il y a 4000 ans de généalogie. Et les scientifiques nous disent pas du tout, c'est pas six jours qu'il faut dire, c'est 15 millions d'années. Enfin, à peu près, à quelque chose près. Milliards. Oui, excusez-moi. Vous savez, hein, c'est comme la dette de la France, hein, on sait plus bien si c'est des millions, des milliards. Hein, enfin bon. C'est beaucoup de toute façon, et c'est pas six jours. Alors, comment concilier la vérité scientifique avec ce que dit la Bible? Alors pour beaucoup de scientifiques, c'est pas compliqué, la Bible ne raconte que des bêtises, elle se trompe. Pour certains chrétiens, c'est pas compliqué non plus, c'est la science qui se trompe. Et ils campent fièrement sur leur position, quitte à inventer une nouvelle science pour essayer de prouver que la Terre est jeune. Et puis pour d'autres chrétiens, il y a deux vérités. Il y a la vérité de la science et la vérité de la Bible. Et c'est un peu difficile à maintenir l'idée qu'il y ait deux vérités qui ne disent pas la même chose. Alors, comment faire? Vous voyez, mon petit bonhomme, il a l'air un peu perplexe là-bas. Essayons d'y voir un peu plus clair en étudiant le texte. Voyons par exemple le septième jour. Le septième jour fut le jour de repos de Dieu. Pourquoi un jour de repos? Est-ce que Dieu était fatigué? Est-ce que c'est fatigant de créer le monde? Est-ce qu'il devait prendre ses RTT? Ce qui est plutôt souligné, c'est que Dieu a cessé de créer après ces six jours. Et ce terme « cesser », c'est ce qui a donné le terme hébreu de « Shabbat », le sabbat. C'est le septième jour de repos dans la semaine des Juifs, le jour où on cesse son travail pour se consacrer à Dieu, pour se tourner vers lui, pour passer du temps avec lui. Et vous voyez que le septième jour est particulier, il n'est pas mentionné de soir et de matin. Est-ce que cela voudrait dire que ce septième jour dure encore? C'est ce que semble dire Jésus en tout cas. Si vous lisez Jean 5, verset 16, il est question de conflit entre les juifs, les autorités juives et Jésus, parce qu'il l'accuse de travailler pendant le sabbat. Et Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. » Et si vous essayez de comprendre la logique de ce texte, il n'y a qu'une seule façon de la comprendre, c'est que pour Jésus, Dieu était encore dans son sabbat, dans son septième jour. Sinon, c'est incompréhensible. C'est la seule logique possible. Donc, Jésus n'avait pas de peine à accepter l'idée que Dieu était toujours dans son septième jour, alors qu'on était au moins 1500 ans après que le texte ait été écrit. Mais est-ce que c'est le seul jour qui a duré longtemps? On va garder cette question pour plus tard. Alors voyons encore ce qui structure le texte. Au début de chaque action de création de Dieu, au début de chaque jour, on a cette formule « Dieu dit ». Que la lumière soit, par exemple. Et c'est un verbe curieux. À qui est-ce qu'il parle? Quand on dit quelque chose, en général, c'est qu'on parle à quelqu'un. Dieu crée par sa parole. Cela nous rappelle ce que dit l'évangile de Jean. Vous savez, le début de l'évangile de Jean qui nous dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Et nous savons bien que Jean, dans ce début de son évangile, quand il dit la parole, après il va l'appeler la lumière, et après il va l'appeler Jésus-Christ. C'est bien de Jésus-Christ qu'il parle. Et cela nous permet de nous rappeler que Dieu crée par sa parole, et que la parole dont il est question là, c'est la personne même de Jésus, le Fils éternel. Avant de s'incarner dans l'homme Jésus, Jésus était la parole, à la fois Dieu et avec Dieu, la parole créatrice de Dieu. Et ce terme « Dieu dit » revient 10 fois dans notre passage. Les deux derniers, ce sont les paroles adressées aux humains. Voilà ce que Dieu dit. Mais il est intéressant de voir que, en ce qui concerne les actes créateurs, on a « Dieu dit » une fois par jour, sauf le troisième et le sixième jour, où on l'a deux fois. Dieu dit, Dieu dit. Ce troisième et ce sixième jour, on a l'impression que ces jours-là sont doubles, qu'il y a deux actes créateurs, et c'est ce que nous allons voir ensuite. Autre expression, Dieu créa. Dieu créa, ça ne revient que rarement dans notre texte. Alors il faut faire un peu attention aux traductions, parce que parfois dans les traductions, certains mots sont traduits différemment. Le terme hébreu, bara, c'est un terme qui est très fort. C'est un verbe qui, dans la Bible, n'a que Dieu comme sujet. Il n'y a que Dieu qui emploie ce verbe, créer. Et dans notre texte, on l'a à trois reprises. On l'a au début, au commencement, Dieu créa, c'est un petit peu l'annonce de tout ce qui va se passer. On l'a au cinquième jour, quand il est question de créer les êtres vivants. Là, il s'agit des poissons et des oiseaux. Et on l'a trois fois de suite, en ce qui concerne la création de l'homme. Donc au verset 1, au verset 21 et au verset 27, où il est dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa l'image de Dieu, homme et femme, il les créa ». On a un peu comme un crescendo, hein, quelque chose qui va de plus en plus fort. La création tout entière est l'œuvre de Dieu, mais ça commence à devenir sérieux avec les créatures vivantes, et c'est vraiment très important avec l'homme et la femme, qui sont donc sa création par excellence. Et nous avons cette expression dans ce texte que Dieu crée et qu'il crée à partir de rien, montrant ainsi qu'il est vraiment le Tout-Puissant, celui qui peut toutes choses selon son bon vouloir. Alors, autre expression, Dieu vit que cela était bon. Presque à la fin de chaque jour, on a cette expression qui revient et qui montre la satisfaction de Dieu. Et à la fin du sixième jour, il y a même l'expression « très bon ». Sa création est bonne. Ce n'est que le plus tard que le péché entrera dans le monde, le péché qui va tout dérégler. Pensons-y parfois quand nous entendons autour de nous accuser Dieu lorsqu'il se passe quelque chose de mal dans ce monde. Mais que fait Dieu parce que, voilà. Mais la création de Dieu, elle est bonne. Alors pourquoi la mention « bon » n'est pas à la fin du deuxième jour? Alors ça, je ne peux pas vous le dire. La seule explication que j'ai trouvée, c'est que si on totalise, ça fait 7. Alors, est-ce qu'il a voulu, Moïse, mettre un symbolisme de 7, c'est le chiffre de l'excellence, c'est le chiffre de la perfection. Est-ce qu'il a voulu mettre 7 mentions de bon? Je ne pense pas que ce soit parce que le deuxième jour n'était pas bon, puisqu'en fait, la conclusion, c'est que finalement, tout était très bon. On voit encore une fois que le troisième et le sixième jour se distinguent par deux fois les mentions. On a l'impression qu'il y a deux sous-jours là-dedans. Gardons cette idée en tête. La création de Dieu est entièrement bonne, exempte de péché, de faiblesse. Et que si l'homme n'avait pas introduit le péché dans le monde, nous vivrions toujours dans cette belle création. Alors, autre notion, la notion de séparation. Chaque jour, il est question de séparation. Alors, parfois, c'est carrément marqué, c'est pour séparer. Hein ? Je vous l'ai mis pour les jours 1, 2, 4, voilà. Et puis, dans d'autres texte, il est pas, le mot n'est pas employé, mais l'idée est là. Hein. Il faut séparer la terre sèche de la mer, par exemple. Hein. Et puis il y a pour les végétaux, pour les animaux, selon leur espèce. Et pour les humains, il y a la séparation du sexe. Hein. Hommes et femmes, il les créa. Deux sexes bien différenciés. Notre Dieu est un Dieu d'ordre qui sépare les choses, qui souhaite que sa création respecte un ordre. Et nous-mêmes, est-ce que nous sommes soucieux d'ordre et parfois de séparation, d'ordre dans nos idées, alors que le diable, lui, aime semer la confusion. Hein, c'est ainsi que le diable va séduire Ève il va introduire en elle. Est-ce que Dieu a vraiment dit cela? Il va introduire un doute. Ayons donc une vision claire de ce qu'est la vérité. Ordre aussi dans notre conduite, dans nos paroles, en évitant les choses équivoques, les demi-vérités, les demi-mensonges. Paul aux Éphésiens leur dit, chapitre 5, verset 11, « Ne participez pas aux pratiques stériles qui favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. » Ayons aussi une conduite claire et des fréquentations claires. L'Épître aux Éphésiens touche toujours au chapitre 5, un peu avant, au verset 5, Paul dit « Sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté ou à la soif de posséder n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur, ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à ces gens-là. » La notion de séparation. Est-ce que nous sommes soucieux des personnes que nous fréquentons et de l'influence, parfois mauvaise, qu'elles peuvent avoir sur nous? Alors, voyons un peu ce que Dieu a créé chaque jour. Le premier jour, la lumière séparée des ténèbres. Le deuxième jour, les eaux séparées en deux domaines, celle d'en bas et celle d'en haut, qu'il appelle le ciel. Le troisième jour, la terre séparée de la mer, et puis ensuite, un deuxième acte créateur, la végétation. Le quatrième jour, les astres, notamment le soleil et la lune. Le cinquième jour, les poissons et les oiseaux. Le sixième jour, encore un jour double, les animaux terrestres, puis les humains. Donc, j'aimerais faire plusieurs remarques. Si nous pensons que la création de Dieu suit le schéma de la science, c'est une opinion qu'on appelle le concordisme. Hein, c'est de dire, ah oh, mais oui, mais la Genèse et la science, ça va en gros dans la même, c'est la même chose. Il suffit de dire que les jours ont duré un peu plus longtemps. Eh ben non, nous nous trompons. Car aucun scientifique à notre époque n'accepterait l'idée que la végétation, notamment les arbres, puisse pousser avant que le soleil soit arrivé. Ni même que la Terre puisse exister avant le Soleil. Donc nous devons abandonner le concordisme. Autre chose, comment peut-on parler d'un jour quand il n'y a pas de Soleil? Un jour, c'est le temps que met la Terre à tourner sur elle-même en face du Soleil. C'est comme ça qu'il y a la clarté et puis la nuit. Comment est-ce qu'on peut, dans les premiers jours, avant que le soleil arrive, qui n'arrive qu'au quatrième jour, parler de jour? Troisième remarque, nous sommes dans un schéma à sept jours qui fait donc immédiatement penser à la semaine hébraïque. Alors la première idée, c'est que de dire, comme Dieu a travaillé pendant six jours et s'est reposé un jour, eh bien les Israélites feront la même chose. C'est ce qu'on trouve dans Exode 20, c'est le passage sur les 10 commandements où il est dit qu'il faut sanctifier le sabbat, le mettre à part, parce que Dieu a travaillé ainsi. Mais on peut prendre l'argument à l'envers. On peut prendre le fait que comme Moïse connaissait le sabbat, puisqu'il le vivait avec les Israélites, il a utilisé ce schéma pour expliquer la création de Dieu. Et il a eu un peu du mal, c'est parce qu'il avait 8 actes créateurs à caser dans 6 jours. Et du coup, il a fait des jours doubles. Enfin, il s'est donné du mal, le pauvre. Cela pourrait nous expliquer pourquoi les jours 3 et les jours 6 comportent 2 actes créateurs. Comme vous le voyez, petit à petit, la structure du texte nous éloigne de la compréhension littérale de ces 6 jours. Alors, si vous y tenez comme à la prunelle de vos yeux, à la compréhension littérale de ces 6 jours, surtout ne l'abandonnez pas. Mais si pour vous c'est un problème, en disant, mais quand même, avec la science, j'ai un petit peu de mal. Je crois qu'on peut dire que ce texte nous enseigne à ne pas, la façon dont il est structuré, nous enseigne à ne pas nous cramponner trop fort à cette compréhension littérale. Et on a vu plusieurs arguments qui vont contre. Nous l'avons déjà vu, pour Jésus, le septième jour durait encore lorsqu'il était là. Donc au moins le septième jour est beaucoup plus long. Et puis, quand vous lisez la suite, vous lisez Genèse 2, vous voyez que vous avez un deuxième récit de la création où l'ordre n'est pas le même. Par exemple, en Genèse 2, l'homme semble avoir été créé avant les animaux, ce qui est un peu curieux. En Genèse 2 toujours, on voit ça au verset 7 et au verset 19. En Genèse 2 toujours, l'auteur semble être étonné au moment de la création de l'homme que les arbres n'aient pas encore poussé. On voit ça au verset 5. Toujours en Genèse 2, on voit que la femme est créée à partir de l'homme et non simultanément comme en Genèse 1. Il y a aussi le psaume 104 qui parle aussi de la création et qui nous donne un ordre un peu différent. Et puis ce passage du psaume 90 qui nous dit qu'aux yeux de Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Donc, qu'est-ce que nous pouvons conclure? Comme je disais tout à l'heure, si nous pensons fermement que la Bible enseigne une création de 6 jours de 24 heures, nous sommes tout à fait libres de le penser. Mais si cette pensée est pour nous pose problème, nous pouvons légitimement, même en prenant la Bible tout à fait au sérieux, dire que la Bible n'enseigne pas cela, et que Moïse, en se servant tant bien que mal d'un schéma en 6 jours plus un pour exposer la création, ne suit pas un ordre chronologique, mais un ordre logique. Alors, quel ordre logique peut-il penser? Alors, on voit sur cette diapo qu'en fait, il y a deux sortes de jours. Il y a les trois premiers et les trois suivants. Et que dans les trois premiers, Dieu crée des espaces, des cadres de vie. Et dans les trois suivants, Dieu va peupler les cadres de vie qu'il a créés dans les trois premiers. Il crée la lumière, il va peupler la lumière avec les astres. Il crée le ciel et les eaux d'en bas, il va peupler avec les poissons et les oiseaux. Il crée la terre ferme et il va peupler avec les animaux terrestres. Les jours donc se correspondent, le 1, le 4, le 2 et le 5, le 3 et le 6. La seule chose qui ne marche pas bien sur ce beau schéma, c'est la fin du 3 et la fin du 6. Regardons donc de plus près. Si on regarde bien, ce sont des moments de transition. De transition, parce que la fin du 3, la création de la végétation c'est quelque chose... Là en bas, Dieu se repose le sabbat. Je pousse la chair. Voilà. La végétation, c'est un cadre de vie, mais c'est déjà un peuplement. Donc, c'est quelque chose qui est intermédiaire entre la première et la deuxième série. Et la création des humains, c'est aussi un moment intermédiaire. Parce que les humains sont faits en image de Dieu. Ils sont faits pour vivre éternellement, à cette époque-là, ils sont faits pour vivre éternellement. C'est seulement avec le péché que la mort viendra. Et ils sont faits pour être en communion avec Dieu. Ils sont créés le sixième jour en vue du septième. En vue de la relation, de la communion avec leur Créateur. Et c'est ce sens-là qui est le sens du sabbat. C'est le sens de retrouver la communion, la relation avec Dieu. Donc, un schéma logique et non pas chronologique. Chaque jour a pu durer quelques millions ou quelques milliards d'années, c'est pas très important. Tel moment a pu être avant tel autre, c'est pas ce que Moïse a voulu nous dire. Ce qu'il veut nous dire, c'est qu'il y a une logique, et cette logique, elle va vers une apothéose qui est la création de l'humain pour être en relation avec Dieu. Tout le cadre qui a été créé va venir trouver son apothéose ici, dans la création de l'être humain, le seul qui est en image de Dieu. Il faut lire ce texte non pas comme un calendrier, mais comme un plan. Vous savez, si vous regardez le plan d'une voiture, par exemple, on vous dira, ben voilà, d'abord il y a la partie moteur, ensuite il y a la partie direction, là c'est la partie freinage. Ça ne veut pas dire que l'un a été créé avant l'autre, mais c'est que les logiques sont différentes. Rien n'est trop beau dans cette création pour la créature bien-aimée de Dieu, et le fait qu'elle soit mentionnée en dernier montre qu'elle est le sommet de la création et qu'elle est destinée à la relation avec Dieu. Alors je vous propose de conclure. Je suis désolé, j'ai été un peu vite, mais c'était un peu long. Des conclusions, j'en ai trouvé 10. La science nous dit comment s'est fait l'apparition de la Terre, de l'univers. La Genèse ne nous dit pas comment, elle nous dit pourquoi. La manière dont la création s'est faite, c'est la science qui va nous le dire, mais par contre, ce texte nous indique le but. Dieu crée un univers pour y installer son image qui deviendra son interlocuteur. Deuxième point, nous devons donc être tout à fait détendus. Je suis désolé, les lettres sont un peu bizarres, ce n'était pas prévu, mais bon. Nous devons être tout à fait détendus dans nos rapports avec les scientifiques. La Bible utilise donc ce schéma de 6 jours plus un, ce n'est pas pour nous révéler le temps passé, pour nous montrer l'intention de Dieu. Donc, si nous étions un peu crispés dans nos rapports avec la science, sur ce point-là, cela peut nous décrisper, parce qu'il n'y a pas de conflit, il y a 2 intentions différentes. Troisième point, Dieu crée à partir de rien. Il montre ainsi sa toute-puissance et nous pouvons l'admirer, l'adorer pour cette création. Quatrième point, Dieu crée par sa parole et c'est Jésus qui est la parole de Dieu, qui est l'agent effecteur de la volonté divine, montrant déjà que le prix que le Fils de Dieu met sur les humains. On a vu tout à l'heure, il était question de Dieu dit. C'est chaque fois un acte créateur. Et puis, 2 fois, Dieu dit, c'est quand il parle aux humains. Et on voit l'intervention déjà du Fils éternel de Dieu dans la relation avec les hommes. Quatrième point, c'est l'ordre. Dieu crée un ordre. La création est ordonnée, ce qui veut dire qu'elle est compréhensible pour les hommes. C'est ce qui fonde la science. Aucune science ne serait possible si la création ne suivait pas un ordre. Si les lois de la physique étaient tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, si un corps pouvait être de temps en temps solide et l'instant d'après liquide et s'évaporer, on ne sait pas pourquoi. Dieu crée un ordre et sa création est donc compréhensible pour nous. Le 6e point, c'est que Dieu crée en séparant. Et plus tard, il donnera des lois aux hommes pour séparer ce qui est permis de ce qui est interdit, pour séparer ce qui est bien de ce qui est mal. Et on voit qu'il n'est pas étonnant que notre monde, que le monde entier aille mal, puisque l'homme qui devait veiller sur lui, c'était la mission que Dieu lui a confiée. On voit ça dans Genèse 2, puisque cet homme-là a rejeté le précepte divin. Et cela s'aggrave encore dans notre société qui ne sait plus où est le bien, où est le mal. Ce péché qui est souvent lié à la confusion. Et donc nous devons nous souvenir de cette séparation originelle et continuer à demander à Dieu, en lisant notre Bible, de nous enseigner ce qui est bien et ce qui est mal. Septième point, la création de Dieu est entièrement bonne. Parfois, on entend dire, pourquoi est-ce que Dieu nous a créés pécheurs? Mais ce n'est pas vrai, Dieu ne nous a pas créés pécheurs. Dieu nous a créés bons. C'est nous qui avons voulu devenir pécheurs, en quelque sorte. Lorsque nous avons rompu la dépendance avec lui, nous avons décidé de ne plus être dépendants et du coup, de ne plus suivre sa volonté. À partir de là, l'homme est devenu responsable du mal. Huitième point, toute la création culmine dans la création du monde, de l'homme. Cela montre l'amour de Dieu pour les humains. Cela nous enseigne la valeur de tout être humain. Nous sommes entourés de gens qui sont des humanistes athées. Et si vous réfléchissez bien, un humanisme athée est tout à fait illogique. Qu'est-ce qui donne le prix à l'homme si on pense qu'il n'est qu'un tas de molécules? On peut bien le réduire en esclavage. Qu'est-ce que ça peut faire puisque ce n'est qu'un tas de molécules? La seule chose qui donne la valeur à l'homme, c'est l'amour que Dieu montre pour cette créature qu'il a faite. Même pour les personnes que spontanément nous n'aimons pas bien, nous devons nous souvenir qu'elle est image de Dieu, qu'elle est précieuse. Au passage, même les femmes sont image de Dieu. Donc la misogynie ne devrait pas exister chez un chrétien. Ça ne devrait pas être même cité. Et puis, le dixième et dernier point, l'homme est créé le sixième jour, nous l'avons vu, mais il est créé en vue du septième de la relation avec Dieu. C'est le sens du parallèle avec le sabbat. Et comme le juif devait garder un jour pour se souvenir de son créateur et l'adorer, nous devons nous-mêmes mettre du temps à part et de l'énergie pour passer du temps avec notre Dieu. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Non, c'est pas qu'il y a des petits hommes verts qui vont arriver, hein. Mais nous avons un Dieu qui nous aime. Il l'a montré par la beauté, par la grandeur de sa création, comme un splendide écrin qu'il a fait pour y installer le plus beau des diamants, qui sont les humains. Et il le confirmera plus tard, lorsqu'il donnera celui qu'il a le plus cher, son bien-aimé Jésus, pour racheter cette créature qui est tombée dans la rébellion. L'homme est créé pour être en relation avec Dieu. Ne l'oublions pas et rendons-lui gloire chaque jour. Merci.